Frères et sœurs bien-aimés, nous faisons mémoire en ce dimanche du baptême de notre Seigneur Jésus le Christ dans le fleuve que l'on appelle le Jourdain. Le Jourdain, dans la tradition biblique, n'est pas un fleuve parmi tant d'autres. Vous vous souvenez que lorsque Moïse, sous la conduite de Dieu, fait traverser la mer Rouge à pied sec au peuple hébreu, ils vont ensuite cheminer pendant 40 ans dans le désert. Moïse parvient à la fin de sa vie en haut du mont Nebo. Il contemple au loin ce qu'il a tant désiré, cette terre promise par Dieu. Le bon Dieu, en faisant passer ainsi le peuple de la mer Rouge, eh bien, les a fait passer de l'esclavage en Égypte à la liberté des enfants de Dieu, mais une liberté qu'il faut acquérir dans ces 40 années dans le désert. Moïse voit enfin, juste avant de mourir, cette terre promise par Dieu. Moïse n'y posera pas les pieds. C'est Josué qui va faire descendre le peuple du mont Nebo, et quelle est la frontière naturelle de cette terre sainte ? Le fleuve du Jourdain. Le bon Dieu va ouvrir le Jourdain, parce que l'Arche d'Alliance va y pénétrer tout d'abord, et voilà que le peuple va entrer en terre sainte, terre occupée. Il va falloir que Josué libère cette terre pour en faire la terre promise par Dieu. Ils ont passé le Jourdain à pied sec. C'est donc la frontière naturelle de la terre promise. Si avec la mer Rouge, le bon Dieu fait passer le peuple de l'esclavage à la liberté, eh bien voilà que le Jourdain fait passer ce peuple de la mort à la vie. Pourquoi ? Pour avoir un éclairage, il nous faut revenir à la vie du grand prophète Élie. Élie, au soir de sa vie, alors qu'il va être emporté dans son char de feu et qu'il transmet son don de prophétie à Élisée, et sur les bords du Jourdain. C'est sur les bords du Jourdain qu'ont lieu ses adieux et que Élie est monté immédiatement à la gloire du ciel. Le Jourdain est le fleuve qui ouvre à la vie et à la vie éternelle. Pourquoi ? Parce que c'est un fleuve mystérieux. Il prend sa source au Liban et il se déverse ainsi sur 360 kilomètres. Et où se jette-t-il ? Dans la mer, une mer que l'on appelle la mer morte, qui se situe à 421 mètres en dessous du niveau des océans. C'est dire que dans la tradition biblique, le Jourdain, qui permet d'apporter la vie à cette contrée, finit dans une mer morte. C'est bien l'image qu'en traversant le Jourdain, on passe ainsi de la mort à la vie. Ce n'est donc pas un hasard si saint Jean-Baptiste quitte Jérusalem pour se retirer au bord du Jourdain. Jean-Baptiste baptise avec de l'eau, comme il dit, non pas encore avec l'Esprit-Saint et le feu. Il baptise dans l'eau. Toute personne qui entre dans le Jourdain reconnaît qu'elle est pécheur, qu'elle commet des péchés. Et voilà que, en étant ainsi lavé symboliquement par cette eau et en revenant sur la terre ferme, on mène une nouvelle vie. Ce baptême est un symbole de conversion. Lorsque notre Seigneur Jésus le Christ paraît sur les bords du Jourdain, c'est l'évangéliste saint Jean qui nous le rapporte, il y a une discussion entre saint Jean-Baptiste et le Seigneur Jésus. Jean-Baptiste ne veut pas baptiser le Seigneur Jésus. Pourquoi ? Parce qu'il reconnaît en lui l'agneau de Dieu qui enlève le péché. Or, si Jésus entre dans le Jourdain, il reconnaîtrait qu'il est pécheur. Et pourtant, le Seigneur Jésus lui dit que c'est ainsi qu'il veut recevoir le baptême. Non pas qu'il a commis des péchés, mais voilà qu'en entrant dans le Jourdain, symboliquement, il prend sur lui tous nos péchés. Et voilà que saint Matthieu nous dit dans son évangile, quand Jésus sort du Jourdain, il remonte des eaux, et c'est le même mot en grec qu'il utilisera pour nous parler de la résurrection. Le Jourdain est ce fleuve qui fait passer de la mort à la vie et qui anticipe pour le Seigneur Jésus le sacrifice du bois de la croix. En effet, nous qui avons reçu le baptême et qui faisons mémoire en cette fête de notre baptême, nous n'avons pas reçu le baptême de Jean-Baptiste, le baptême de conversion pour nos péchés. Nous, nous avons été baptisés dans le sacrifice de notre Seigneur Jésus le Christ. Par lui, nous sommes morts et plongés dans l'obscurité du tombeau, et par lui, nous ressuscitons, nous ressusciterons. Le Seigneur Jésus, en recevant ce baptême, est l'agneau de Dieu qui sera lui sacrifié sur le bois de la croix. Lorsque le Seigneur Jésus reçoit ainsi le baptême, et c'est seulement Saint Luc que nous avons entendu dans cet évangile qui le précise, il nous dit « Jésus était en prière au moment où le ciel s'ouvre ». Et tous les pères de l'Église ont constaté un point important. On nous dit que le ciel s'ouvre, mais jamais personne ne nous a dit que depuis ce jour-là, les cieux se seraient refermés. Et du coup, ce baptême de Jésus, alors que le ciel s'ouvre, c'est déjà la sainte espérance dont nous parlait saint Paul dans la seconde épître, qui s'actualise. Le ciel était fermé par le péché d'Adam et Ève, nos premiers parents, et voilà qu'avec le baptême du Seigneur, le ciel se déchire et est à nouveau ouvert, parce que le baptême annonce à l'avance, de façon symbolique, les noces que le Seigneur va vivre sur le bois de la croix, des noces qui unit l'épouse à l'époux. L'époux est le Seigneur Jésus, mais qui donc est l'épouse ? Il s'agit de l'Église. Et lorsque nous avons reçu le baptême, nous avons été baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et voilà le premier récit où la Sainte Trinité est manifestée. Non seulement il y a Dieu le Fils qui est devenu un homme tout en demeurant Dieu, l'Esprit-Saint sous une apparence corporelle lui apparaît au-dessus de lui, repose sur Dieu le Fils et la voix du Père se fait entendre. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui réside toute ma joie. » Pourquoi toute ma joie ? Lorsque le Seigneur Jésus veut nous parler du cœur de Dieu le Père, il va nous raconter plusieurs paraboles, notamment celle que nous appelons la parabole du Fils prodigue. Mais le titre est mal mis, parce que le Seigneur Jésus ne veut pas nous parler du Fils prodigue, il veut nous parler du Père, de cette joie immense que ce Père a, lorsqu'il reconnaît au loin son fils qui vient, il n'attend pas en disant « il va venir rendre des comptes sur tout le mal qu'il m'a fait, sur l'argent qu'il a dépensé », non. Le père quitte sa maison et s'élance et accueille en ses bras le fils prodigue. « Mon fils que voilà était mort, il est revenu à la vie ». Voilà ce que nous avons vécu au jour de notre baptême. Nous sommes morts et nous sommes ressuscités dans le Christ. Nous avons donc été, nous aussi, baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Non seulement nous sommes devenus enfants de Dieu, mais alors nous sommes devenus par là même héritiers de Dieu, héritiers de la vie éternelle. Oui, le ciel est déchiré, le ciel est ouvert, le ciel nous est promis, le ciel nous est accessible si nous suivons ainsi le Seigneur de la mort à la vie. Nous ne pouvons donc que rendre grâce pour ce baptême qui nous a recréés. Nous sommes nés une seconde fois et de l'eau et de l'Esprit-Saint. Saint Jean-Baptiste disait que nous serons baptisés dans le feu et dans l'Esprit-Saint. Le feu est une autre image du Saint-Esprit qui a été confirmé en nos âmes au jour justement du sacrement que l'on appelle de la confirmation. Il ne faut pas un sacrement pour faire un chrétien, il en faut trois. Recevoir le sacrement du baptême, recevoir le sacrement de la confirmation et accéder à la communion eucharistique. Voilà les trois sacrements de l'initiation chrétienne. Nous les avons reçus et nous rendons grâce aujourd'hui au Seigneur pour ce baptême. Un baptême qui ne doit pas simplement se vivre dans la vie spirituelle de mon petit Jésus et moi. Un baptême qui doit se vivre également là où nous sommes, dans nos familles, dans nos différentes professions, dans nos différentes activités où nous avons à témoigner de notre amour pour le Seigneur et de notre amour pour le prochain. Puisse la bienheureuse Vierge Marie, Saint Joseph et le Seigneur lui-même nous aider à cela à vivre notre sacrement du baptême en reconnaissant que nous sommes chacun enfants de Dieu, attendus pour la vie éternelle, ainsi soit-il.